Bienvenue dans cette onde curieuse, tempétueuse, puisque le vent souffle dans notre bonne région d'Aubenas, comme à pas mal d'endroits. Le vent souffle et nous apporte Jean-Paul-Édouard. Jean-Paul-Édouard, nous l'avions déjà accueilli pour parler de l'association pour la recherche sur les tumeurs cancéreuses, et nous l'accueillons une nouvelle fois aujourd'hui pour parler bouquins, pour parler de ces bouquins. Il y en a eu un, il y a quelques années, Édouard dehors, on aura l'occasion de l'évoquer. Il y en a eu un deuxième, Comme un vieux rock'n'roll, c'est le titre, on vous donnera les moyens de vous le procurer en fin d'émission. Comme un vieux rock'n'roll de Jean-Paul Édouard, donc, que nous recevons aujourd'hui, nous allons nous payer une bonne tranche de discute sur les années 60 et 70, la musique. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour, merci de me recevoir, c'est vraiment très très gentil à vous. Merci Fréquence 7.
C'est un plaisir que nous partageons avec Marie, parce que mardi c'est Marie.
Et ce qui est cool, c'est que ça peut être mardi, jeudi, mercredi, vendredi, parce que Marie est...
Marie.
Ok, ça marche. Oui, salut.
Salut. Et tu fais quoi le dimanche?
Ah, je suis pas là. J'y vais?
Bah écoute Marie, si tu veux.
Ça marche. Cool. Alors, mercredi, demain, les fées sorcières, c'est au cinéma de Tueil, salle Vesprade, un ciné goûté pour les jeunes publics à partir de 3 ans. Ça commence à 14h30. Ailleurs, à Meis, après-midi jeu de société à la bibliothèque de 14h à 17h. Animation assurée par Yannick du magasin L'Amusoir de Montélimar. C'est ouvert à tous. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte. L'entrée est libre. Nico, un petit machin ? Non, pas de petit machin. C'est bon, t'inquiète. Super. Jeudi, maintenant, conférence de Jean Chaudière sur les charbonnières de Basse-Ardèche, organisée par l'association Yaka Solidarité. C'est à 18h au château... C'est où ? Au caveau de Montfleury, à Mirabel, à 18h. Tout savoir sur les dernières charbonnières de Basse-Ardèche. À 78 ans, Jean est encore en activité. Il veut transmettre ses secrets de fabrication. Niveau pratique, c'est tout public et participation libre. Donc, 18h au caveau de Montfleury à Mirabel. Autre chose, la compagnie des fous semblants présente leur spectacle Valse en blues bémol. C'est un spectacle muet avec poésie, musique et chansons.
Ouais, on a vu un peu les banderoles dans la campagne aux alentours de...
Exact.
Pour les fous semblants.
Voilà, il n'y a pas de texte, mais une histoire forte qui fera vibrer chacun. Il y a six représentations en avril, les prochaines, toutes à 20h. C'est le 25 au Bourneau à Aubenas, le 26 à Lanas et le 27 à Jaujac. Tarif 6€ et gratuit pour les moins de 12 ans.
Bon, bah c'est sympa ça.
On passe à vendredi. Air et chant d'Irlande, conférence animée par Christian Fromentin, qui est musicien, à la médiathèque de Montpezat. C'est 17h30. L'histoire culturelle de l'île, ses grandes étapes depuis l'Antiquité, sont liées à l'Empire britannique, mais également à l'Europe continentale et aux États-Unis. Ses symboles, son imaginaire, sa musique, etc. Entrée libre. Et conférence suivie d'un concert le 27 à la Messicole.
C'est où ça, la Messicole?
Je ne sais pas.
Tu sais pas?
Non.
Trouver la Messicole sur Internet.
Il me semble que c'est à Montpezat.
Bon. Ben oui, on était déjà à Montpezat. Un petit machin?
Un petit blanc ou... Ah non, une virgule, pardon.
Oui. On est trop fort. Ça sent, Sylvain n'est pas là. C'est la pagaille. Non, pas trop.
Sylvain, on t'envoie une carte postale.
C'est ça.
Orale, tout de suite, là, maintenant. Carte postale.
Bisous. Pardon, je continue. Donc, on est toujours vendredi. Conférence de Stéphane Guilbeault, qui est lithographe. C'est au château de Vauguet, à 18h30. Il présente son métier de lithographe et l'approche de l'art de l'estampe. Entrée libre. On reste vendredi, c'est le concert de Gérard Morel à La Bobine, à Aubenas, 20h30, 22h30, c'est les horaires. Gérard Morel est un jongleur de mots qui cisèle des chansons à sa pointure, en phase avec sa bonhomie émouvante et ses éternelles bretelles. Et il a décidé de ne pas traiter du méchant, du violent, du dégueulasse, du merdeux. Il préfère raconter le beau, le doux, le tranquille, le fragile. Ce qui dénote de nos jours d'un caractère sacrément fort. Le bar est ouvert à 19h30. On peut manger, mais il faut réserver. Et les tarifs pour le concert, 17 ou 12 ou 7 euros. Renseignez-vous. Yes. En fait, on reste à vendredi. Et c'est le concert des Labobicous. C'est du folk, c'est un concert bal folk du nouveau projet d'Agnès et Camille, les musiciennes. Rendez-vous à 21h à l'espace culturel de Saint-Privat et sortez vos plus belles bicouses. C'est quoi les bicouses, tu sais toi ?
Pas du tout.
Aïe. Moi je sais.
C'est des mèches de cheveux rebelles en occitan.
Ah.
Et oui.
J'en
donc,
ai plus beaucoup, les
c'est pas... Tes tifs sont tressés, emmêlés au carré, parsemés, bouclés, balayés, crêpés, pommadés, lissés, crêtés, épais, noués ou envolé, laisse tomber ton peigne, coiffe-toi comme un bouc, un as de pique, un pétard et attrape ta plus belle perruque et viens secouer tes bicouses, viens danser. Voilà, la soirée est au chapeau, rendez-vous à 21h et il y a une buffette sur place. J'ai fini pour aujourd'hui et à bientôt.
Merci Marie pour toutes ces précieuses informations qui vont bien nous aider à nous distraire, à remplir nos journées. Oui. En attendant, eh bien, un peu de musique.
The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. They've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad.
Bob Dylan, qui aurait dit en 1966, l'année où le single I Want You est sorti, qui aurait dit en 1966 que Bob Dylan serait prix Nobel de littérature, n'est-ce pas? Comme quoi, il y a des avenirs surprenants. Le vôtre, Jean-Paul Édouard, ça paraissait mal parti. Je mène mes entretiens en forme d'abécédaire. Et bon, pour la blague, on aurait pu parler d'Apollo. On a tous des souvenirs d'Apollo 11, 69, pour évoquer les années 60 et 70.
Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité.
C'est cela même.
Olivier, permets-moi de vous couper pour le merveilleux choix de Dylan en préambule.
Ah ben c'est celui.
I want you, je te veux.
Oui, c'est celui de l'ange musical des jardins suspendus, Landy Unger, qui est grande amatrice de la musique des années 60-70, dont nous allons avoir l'occasion de parler. Un abécédaire, ça commence par A. On a beaucoup hésité. Apollo, on laisse tomber. Alors, amour, amitié. C'est important, les idéaux d'amour, peace and love, n'est-ce pas?
Je dois choisir entre... l'amour... l'amour ou l'amitié. L'amour, quand il est trop violent, ça peut provoquer des bleus à l'âme, des blessures terribles. L'amitié est là peut-être pour panser ses blessures. Je crois qu'il y aurait plus de douceur dans l'amitié que dans l'amour quand celui-ci est trop violent. Donc je dirais plutôt amitié.
Plutôt amitié.
Plutôt amitié, qu'amour. Elle est... Même si l'amour est important dans la vie.
Oui, je pense qu'on aura l'occasion de vous... Dans Édouard dehors, et puis dans Comme un vieux rock'n'roll, on peut saisir le petit gars des Vences, Jean-Paul Édouard. C'est important aux Vences dans les années 60, l'amitié.
Elle est importante tout au long d'une vie, mais... Oui, c'était une amitié d'enfant et de préado, donc on ne peut pas la comparer à une amitié forte d'adulte après, quand les caractères se sont forgés.
Mais ce sont des amis qui organisaient quand même des concerts de musique au Vence.
J'avais 11 ans lorsque, en 62, les premiers concerts de ce que j'appelle cette folle décade prodigieuse au Vence, qui a duré de 62 à 72, a débuté. Il y avait des jeunes qui étaient un peu plus âgés que moi, que je connaissais, mais j'étais encore trop jeune. Moi, j'avais 11-12 ans, et les plus jeunes d'entre eux, de ce que j'appelais l'élan vancéen, le plus jeune avait 16 ans, ça se situe entre 16 et 22 ans. Et c'est eux qui ont eu l'audace de pouvoir, sans se poser trop de questions, de pouvoir faire venir tous les artistes dont on parlera peut-être tout à l'heure.
Oui, quelques-uns. Très impressionnant, c'est quand même cette aventure de vansoise.
Vancéenne. Excusez-moi, Olivier, de vous reprendre. Oui, elle est impressionnante. Pourquoi ? Parce qu'un petit village de 1500 habitants a réussi le tour de force de faire venir... les plus grands chanteurs de l'époque, par une espèce de magie dont j'ai jamais pu tenir les tenants et les aboutissants. Comment ils ont fait, je ne le sais pas. Franchement, c'est un truc de malade. Et c'est vrai que se payer Bécaud, Brel, Sylvie Vartan, Claude François et d'autres encore, c'est quand même incroyable. On va le voir, mais c'est quelque chose de c'est plus que bluffant, ça tient un peu du miracle.
Oui, complètement, c'est l'impression qu'on a tout à fait en lisant Comme un vieux rock'n'roll que vous avez publié, ça tient effectivement un petit peu du miracle. Alors, ce qui a moins tenu du miracle, ce sont vos débuts scolaires, puisque c'est Édouard dehors. C'est pas un geste d'amour et d'amitié qui vous a lancé dans l'existence.
Je crois que dans la vie, il faut pardonner. Je pardonne beaucoup à ma prof d'histoire qui, à l'époque, m'avait mis dehors, d'où le cinglant Édouard dehors, qui est devenu presque un nom commun, parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Mais moi aussi, j'ai subi un Édouard dehors ». Édouard dehors, c'est une injustice folle, une injustice où, quand on est enfant, on n'a pas les armes pour lutter, et une injustice qui, finalement, vous bloque presque pour les années qui suivent.
Mais vous pouvez nous raconter l'anecdote un petit peu, parce que c'est quand même instructif, je trouve.
C'était un cours d'histoire, j'étais en sixième, je devais avoir déjà l'esprit bien trempé, et la prof d'histoire d'alors était en train de nous vanter. On est obligé de parler un peu politique dans
bien
cette
sûr,
histoire-là.
Naturellement.
On était ce qu'on appelait à l'école laïque, Et donc, les profs d'alors étaient quand même assez investis d'une mission qu'ils croyaient être la meilleure par rapport à l'engagement qu'ils pouvaient avoir. Et la prof d'histoire d'alors, qui avait prodigué un cours sur la l'URSS à l'époque, l'Union républicaine socialiste soviétique, et vanter les mérites du régime d'alors. Et moi, j'avais vu un peu sous cap Tintin chez les soviets, et il y avait des éléments quand même qui m'avaient interpellé, qui ne correspondaient pas tout à fait à ce que la prof d'histoire était en train de nous blablater. Et je regardais tous les autres en me demandant si, comme moi, ils adhéraient à tout ça, et personne ne bougeait. Et je ne sais pas pourquoi, je sais pourquoi, j'ai eu un geste qui peut-être a été fondateur pour ma vie d'après, parce que ce geste était fort, j'ai levé le doigt en disant « Madame, tout ce que vous dites, et j'avais que 11 ans, n'est pas tout à fait vrai ». Et j'ai dit « Mais c'est pas vrai, parce que j'ai vu que la Russie d'alors, il y avait des queues dans les boutiques, les gens n'étaient pas heureux, tout ça, et là, il y a le fameux… Elle s'est raidie, son doigt s'est mis à trembler, elle est devenue rouge, ses yeux se sont exorbités et le doigt vengeur m'a montré la porte avec le terrible Édouard Dehors qui a fait que je me suis retrouvé dans un couloir gris, sinistre, à me dire que plus tard, je prendrai ma revanche.
Voilà,
voilà l'histoire d'Édouard Dehors.
J'aime bien et cette idée d'en faire un nom commun, un Édouard Dehors, parce que bon, je crois d'une manière ou d'une autre, moi j'ai évidemment pas du tout vécu cet Édouard Dehors-là, mais je crois qu'on a tous un petit Édouard Dehors sous le bras, et puis dans la conscience, on a tous un petit quelque chose comme ça. En préparant l'émission, et on était donc sur mon éternel abécédaire, A comme amour, amitié, puisque la scolarité allait être bouleversée, ça a été A comme apprenti plutôt. On peut avoir quelques lumières là-dessus.
Ça a été A comme apprenti parce que je considère que d'abord dans sa vie, on est un éternel apprenti, on a toujours des choses à apprendre. Mais qu'en ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'avoir comme grand maître d'apprentissage un certain Jean-Paul Gerlin, qui est quelqu'un parfumeur, qui m'a façonné, qui a façonné mon nez et qui m'a appris des tas de choses. Ça fait partie d'un des premiers grands personnages rencontrés dans ma vie qui m'a profondément marqué. Donc j'ai décidé à un certain âge de quitter l'Évance pour pouvoir... faire autre chose que ce que j'avais pas envie de faire.
Oui, oui. C'est amusant parce qu'après un Édouard Dehors, il y a une montée à Paris, souvent.
Il y a une montée à
Paris. En France.
Non, mais Édouard Dehors, c'est vraiment... Bon, je reviens juste sur là-dessus. C'est un symbole d'injustice. On ne va pas y revenir. Mais j'ai pardonné à ma prof d'histoire. Mais l'apprentissage que j'ai fait en matière olfactive a été quelque chose d'extraordinaire et m'a permis aussi de... non seulement de m'élever, mais de côtoyer des gens fabuleux dans ma vie, jusqu'à ce que je rencontre Monique, qui était prof comme vous, au lycée d'Aubenas, où j'ai quitté Paris pour venir monter ma première parfumerie à
Aubenas. Oui.
Voilà. J'avais des connaissances en parfum, ça n'a pas été trop compliqué pour moi à ce moment-là. Oui. Voilà.
Et dans la mémoire de beaucoup d'Albenaciens, Jean-Paul Édouard, c'est la parfumerie.
Oui, parce que j'avais les bases pour pouvoir faire autre chose que ce qui se fait maintenant, et voilà, c'était une vraie parfumerie.
D'accord.
On pouvait la concevoir à ce moment-là.
La culture du petit Édouard qui devient grand et parfumeur, elle s'est faite en parallèle, un petit peu en autodidacte, en côtoyant des gens avec lesquels vous aviez envie de partager. Et cette culture, elle s'est faite à travers beaucoup la musique. Alors la musique dans les années 60, évidemment, c'est... Alors je reprends mon abécédaire, c'est B. Alors on a tout ce qu'il faut. On a entendu Bob Dylan. Il y a bien sûr, il y a les Beatles avec le fameux match Beatles-Stone. Et puis il y a aussi le blues. On avait ce qu'il fallait en B. Je vous laisse choisir peut-être.
J'hésite entre... les Beatles, le blues, c'est un peu plus triste. J'hésite entre les Beatles et Dylan. Je dirais Dylan. Pourquoi ? Parce que Dylan, que j'ai connu en 66 par l'intermédiaire du gaufret apportait quelque chose de complètement différent par rapport à tout ce que nous entendions. Alors, ce que nous entendions, c'était les yéyés, c'était, bon, c'était des paroles simplettes, c'était les petits, les filles, les voitures, tout ça. Et arrivé Dylan avec la chanson Why I Want You, avec Like Rolling Stone, avec The Times Are Changing, avec Blowing the Wind, etc. Et là, j'ai découvert un univers complètement différent et qui m'a aussi, lui, fasciné, parce qu'il était plus culturel. Il arrivait d'un mouvement américain qui s'appelait la Beat Generation, et il a été transporté en France assez rapidement, parce que Bob Dylan a commencé à émerger aux États-Unis en 64, et nous, on a eu à peu près en 65-66 la connaissance de Dylan. Voilà. Et moi, j'ai trouvé... Voilà, il y avait... Juste une petite anecdote, c'est que John Baez, qui a été sa compagne pendant quelques années, voulait faire de lui un peu le porte-drapeau de la lutte pour la paix au Vietnam, etc. Et lui, il s'est toujours refusé à cela, bizarrement, parce qu'il aurait pu être effectivement le porte-drapeau, mais il a préféré se cantonner à être le chanteur qu'il était et se limiter à ça. Et c'est peut-être pas plus mal qu'on ne l'ait pas trop connu autrement que sous cet aspect-là.
Oui, oui, d'accord. Voilà. Ça lui a permis de développer d'ailleurs une carrière complètement atypique et qui l'a mené au prix Nobel de littérature, effectivement.
Oui, 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 par rapport à des textes fabuleux dont on a parlé. Absolument.
Alors,
absolument.
Vous parliez de Beat Generation, encore un B, John Baez, encore un B. Alors, on remonte. Et c'était quand même cette Beat Generation, la génération du peace and love, du pouvoir des fleurs.
Du flower power. Alors,
la Beat Generation
est un mouvement un peu plus intellectuel que le mouvement hippie qui est arrivé en 67-68 à San Francisco. On va dire que c'était... plutôt, la Beat Generation a découlé sur le mouvement beatnik, etc. C'était un peu plus intellectuel que... Mais le mouvement hippie est la juste suite de la Beat Generation. Mmh. Voilà. En France, on peut même... Il y a un chanteur dont on parle... Enfin, si on parle peu, mais Antoine, par exemple, à part les élucubrations qui étaient un titre commercial... était tout à fait dans la logique de ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'il a fait des chansons comme la loi de 1920, Pourquoi ces canons, La guerre, qui étaient vraiment des chansons merveilleuses.
Aussi. La loi de 1920 sur la contraception ?
Oui, absolument. Ouais, elle habite avec ses 9 enfants, 2 pièces, ce n'est pas même un appartement. Le mari, on ne le voit pas souvent, et pourtant, on leur a appris à fonder une famille. Faire autrement leur serait difficile. Au mariage, c'était leur seul but dans la vie. Et pourtant.
Voilà. Jean-Paul, vous me le servez sur un plateau, parce qu'effectivement, j'avais envie de... Dans le droit fil de la Beat Generation, du mouvement hippie et de l'amour libre, parce que bon, finalement, c'est quand même beaucoup ça. Nous, en France, c'est la loi Neuwirth, 1967, qui autorise la contraception. Ça a beaucoup contribué quand même à la libération sexuelle.
Dans les élucubrations, il y a une chanson. Si vos mères avaient connu la pilule, vous ne serez pas là à me regarder. Vous serez là-bas. Enfin, bref. Donc, c'est vrai que 66 a précédé la loi Neuwirth et qu'il y a peut-être des mouvements tels que ceux dont on vient de parler qui ont fait en sorte qu'il y a des lois qui arrivent peut-être plus vite par rapport à une jeunesse qui était éprise d'amour.
Ouais.
Et de liberté.
Mais j'ai lu à propos de la loi Neuwirth que Neuwirth voyait le général de Gaulle, hein, ils se connaissaient bien. Et le général de Gaulle, bon, il avait quand même des convictions religieuses qui l'empêchaient un petit peu. Et il aurait réfléchi, en particulier avec son épouse, il aurait dit à Neuwirth concevoir, donner la vie est une chose importante, il faut que ça soit lucide, continué. Donc voilà.
C'est du De Gaulle.
La bénédiction du général pour la loi.
Mais de là à mettre la pilule en vente dans les monoprix comme le clamait Antoine, il aura fallu attendre quand même beaucoup, beaucoup de temps.
Oui, beaucoup de temps, oui. Alors on va rester dans mon abécédaire et dans la musique.
D'accord.
Pour quelque chose où là encore j'ai envie d'apprendre de vous, profiter de votre présence, parce que je connais très, très mal Eddie Cochran. Vous dites que ça aurait pu être un Elvis. Alors je vous laisse nous expliquer un peu ça.
Alors on aurait pu choisir Cancer ou Crabe des mots terribles, mais j'ai préféré la musique qui est plus gaie. Et pour ceux qui ne connaissent pas Eddie Cochrane, enfin moi c'est, je le considère comme parmi les pionniers, certainement comme l'équivalent, pour ne pas dire supérieur à Elvis. La mort, sa mort brutale à 22 ans dans un taxi qui le ramenait de Bath à Londres a été une perte terrible pour le rock. Si Cochrane avait été de ce monde, s'il était resté plus longtemps, il aurait certainement été au moins l'égal d'Elvis, pour ne pas dire le number one de ce qu'on a appelé le rockabilly, c'est-à-dire les pionniers du rock. Hein. Donc, ouais. Sur le plan musical, Chuck Berry était peut-être le meilleur, mais sur le plan de la voix, cette voix si particulière que j'ai toujours pensé venir un peu du sud des États-Unis,
oui,
un peu rocailleuse,
oui.
C'est quand même Eddie Cochrane qui, pour moi, reste dans mon cœur le meilleur. Et j'invite les auditeurs à écouter Summertime Blues, à écouter Something Else, à écouter Come On Everybody, entre autres, enfin des tas d'autres. Mais c'était quelqu'un, en plus qu'il était beau, il était, moi j'ai toujours beaucoup aimé, beaucoup.
Mais je crois que vous m'avez confié que vous étiez rendu sur les lieux de son accident.
Oui, oui, je suis allé en Angleterre et je me suis rendu sur le, enfin il s'avère, je ne suis pas allé tout à fait exprès parce que ma fille était en Angleterre et je me suis dit je vais aller quand même à Chippenham sur le lieu où le fameux taxi s'est scratché. Eddie Mitchell chante une chanson merveilleuse. Hier encore, j'avais deux amis. Le premier s'appelait Eddie Cochrane. Le deuxième s'appelait Buddy Holly. Et en parlant d'Eddie Cochrane, il dit un taxi aux portes de Londres s'est écrasé dans un bruit d'enfer. Un taxi aux portes de Londres m'a privé d'Eddie à jamais. Et cette chanson, c'est un blues.
C'est très touchant. Hein.
C'est très touchant. Ouais, c'est ouais. Une chanson d'Eddie Mitchell qui s'appelle J'avais deux amis. Et je suis allé donc me rendre exactement à l'endroit où il y a une stèle où Eddie Cochrane a perdu la vie à l'âge de 22 ans. Dans la voiture, il y avait Gene Vincent, le célèbre chanteur de ouais. Bebop Alula, et voilà, et qui chantait avec une jambe raide sur scène parce que l'accident l'avait atrophié. Et c'est pour ça qu'il y avait cette fameuse position que beaucoup de rockers...
Déhanché obligatoire.
Que beaucoup de rockers adoptaient à cause de sa jambe qui avait été massacrée. Dans cet accident.
Quand je pense à rockabilly, moi, je suis plongé dans ma prime jeunesse, ma toute prime oui. jeunesse, je pense Bill Haley and the Comets.
Alors, Bill Haley, l'histoire est un peu curieuse, c'est-à-dire que le jazz est né du blues et le rock est né du jazz. Et Bill Haley était avec ses Comets dans un studio pour enregistrer, ils se sont énervés. Entre musiciens, et le rythme s'est accéléré, du jazz, et de ça est né Rock Around the Clock, voilà. Et après l'histoire est partie comme ça, et dit après Eddie Cochrane, décidément.
Oui,
Elvis a enregistré très rapidement That's Alright Mama, qu'il avait yeah. enregistré pour sa maman. That's Alright Mama. Bon, enfin bref, il faut aller écouter tout ça, chers auditeurs. Voilà, vous connaîtrez. Mais l'histoire est partie un peu comme ça, c'est-à-dire d'un énervement qui a accéléré le rythme d'un morceau de jazz pour le transformer en premier morceau de rock. Et l'histoire s'est embrasée. C'est quand même
fou. C'est complètement étonnant.
Ouais, c'est très intéressant.
Embrasement d'histoire, il y a un élément narratif, ça va me fournir mon D de mon abécédaire. Il y a un élément narratif que j'aime beaucoup dans Comme un vieux rock'n'roll, votre livre. C'est un prénom, c'est Dominique. Vous pouvez nous expliquer qui est Dominique dans le livre, hors du livre peut-être, je ne sais pas.
Non, Dominique, elle a existé, c'est une copine d'un flirt de... Je ne veux pas trop dévoiler, mais c'est l'héroïne de mon livre et elle a... Bon, ça me gêne de parler un peu de cette fille, mais je veux que les auditeurs découvrent. Mais disons que ça a été l'astuce pour transporter...
Oui, c'est l'astuce qui m'intéresse.
C'est l'astuce que j'ai trouvée pour transporter l'histoire de mes Cévennes ardéchoises jusqu'en Angleterre dans un premier temps, et puis après lui faire passer l'Atlantique pour qu'elle se retrouve à San Francisco dans le mouvement hippie. Voilà. En fait, l'idée, c'était ça. J'avais le début de mon livre, je voulais transmettre, je trouvais que c'était dommage que les générations qui me suivent, qui m'ont suivi, ne connaissent pas toute l'histoire vancéenne avec cette fameuse décade prodigieuse dont je parlais. Je connaissais un peu la fin parce qu'il y avait une histoire dont je ne vais pas parler, mais qui m'avait violente, qui m'avait particulièrement perturbé quand...
dans les années 70.
Dans les années 60, fin des années 60, début des années 70. Et je voulais expliquer un peu tout ça. Et il me fallait combler le milieu de mon livre. Donc j'ai laissé pendant 2-3 ans les chapitres concernant les Vences. Et puis après, brutalement, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais eu le syndrome de la page blanche, mais... J'avais le début, j'avais la fin, et voilà, je me suis dit, tu vas écrire tout ce qu'il faut entre les deux. Et je voulais trouver une astuce pour pouvoir créer un fil conducteur entre la musique, celle que j'ai connue au Vence, et celle qui a transporté, on va dire, mon héroïne, cette fameuse Dominique, qui l'a transportée d'abord à Londres, et puis après...
À
San Francisco, et à Los Angeles, et toute l'histoire qui a suivi.
Voilà. Et donc à Londres, c'est le fameux Swinging London.
C'est ça.
C'est la période des Beatles, des Stones.
C'est une période complètement folle, parce que il y a eu un nombre incalculable de groupes qui se sont créés à ce moment-là, que ce soit les Yardbirds, que ce soit les Kicks, que ce soit les Animals, que ce soit les Doors sont venus un peu après. Et c'est vrai qu'il y avait toujours les deux. Tête de proue au niveau des groupes, les Beatles et les Stones. On va dire que les Stones représentaient un peu plus les mauvais garçons. Il y avait en Angleterre la mode des mods et des rockers. Les mods préféraient plutôt les Beatles, les rockers plutôt les Stones. Et il y avait des luttes entre ces deux groupes. Et perso, moi, j'ai toujours bien aimé les deux. Je trouve que, bon, bref, toujours est-il que le swinging londonien a été une époque bénie, fructueuse, colorée, musicale. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu, il n'y a pas eu B68 à Londres, et donc les Anglais ont fait leur révolution
dans la musique, dans
les couleurs. La mode anglaise était fabuleuse. Je raconte ça dans mon livre. Les boutiques, on rencontrait dans les boutiques les groupes anglais qui venaient les Pink Floyd, etc., qui venaient s'habiller là. On pouvait les rencontrer dans les boîtes de nuit. Pareil, ils allaient au Marquis, au Bataclan. Le Marquis était un peu ce que le Golf Drouot était à Paris, c'est-à-dire un passage incontournable pour les groupes, pour les chanteurs. Et on pouvait les côtoyer, c'est ça qu'il y a de fou. Incroyable, le swinging London et un moment, et puis l'équipe d'Angleterre venait d'être championne du monde, donc il y avait une effervescence dans Londres qu'on n'a jamais retrouvée autrement que dans ces années passées.
Et dans le livre, effectivement, il y a des passages qui sont pas loin d'être psychédéliques.
Mais, oui, parce que il y avait des soirées, bon, je n'ai pas raconté toutes les soirées, mais j'en raconte une en symbole à la fameuse Roundhouse, qui a vraiment existé. Toutes les adresses que je donne sont réelles. Et là, c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'on pouvait à l'entrée recevoir un sucre chargé de LSD. C'est vrai que voilà, c'est vrai que c'était quand même pas mal. Il y a Monica Vitti qui avait ce jour-là une jupe tellement courte qu'elle pouvait montré qu'elle était blonde, si j'en sais ce qu'il y a. Il y avait Paul McCartney, qui est arrivé déguisé en cheikh arabe, comme s'il sortait de Tintin au pays de l'or noir. Enfin, c'était incroyable.
Une
folie complète, avec des motos qui arrivaient sur scène, avec les Turtles qui jouaient un Happy Together de folie, avec plein de... c'était complètement allumé, complètement déjanté. Alors, ça correspond à la liberté de cette époque, parce que c'est un moment d'une époque, il faut bien comprendre, où le mot liberté n'était pas galvaudé. Il avait toute sa signification.
Oui, pleine. Donc pour le E, parce que je suis... Vous m'avez suggéré un autre prénom, Dieu est avec nous, parmi nous, Emmanuel. Alors là,
Emmanuel est ma compagne, et donc elle subit tout ce que je tout ce que je fais par rapport à la lecture de ce livre. Bon, j'avoue que j'ai été pas toujours marrant, etc. Et Emmanuel, effectivement, ça veut dire Dieu est avec nous. Donc si elle m'écoute, je crois qu'elle m'écoute à l'instant, mais je l'embrasse très fort pour lui dire que c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup dans ma vie.
D'accord. Ouais,
j'aurais pu choisir le E de Édouard Dehors, mais on en a parlé.
On en a parlé.
Emmanuel, c'est bien.
Alors, on salue Emmanuel et puis on passe à la lettre F. Pour un mot qui, je crois, nous tient à cœur tous les deux. Hein, et puis, on va boucler la boucle comme ça, parce qu'on est parti de l'amour, et puis on arrive à F comme fraternité. Alors, je résume un peu comment on y est arrivé. On y est arrivé parce que cette jeunesse amoureuse était une jeunesse blindée d'idéaux. Peace and love.
Oui.
Power flower.
Oui, bien sûr.
Et il faut que il y a pas de liberté sans responsabilité. Et la responsabilité aujourd'hui, c'est justement cet engagement, en particulier votre engagement pour l'association pour la recherche pour les
Tumeurs cérébrales.
Les tumeurs cérébrales.
Bien sûr.
Parlez-moi de cette fraternité, en particulier de personnes que vous avez rencontrées et qui vous paraissent illustrer cette fraternité.
Je vais rester dans la logique. Maintenant qu'on a parlé musique, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus grave.
Oui.
On va parler de Monique, que vous avez connue en tant que prof au lycée, était un être fabuleux.
Oui.
Et je ne pouvais pas faire autrement que de prendre le flambeau que d'aucuns m'ont donné pour mener à bien ce qui est mon action, ce que j'appelle un combat sur notre Bassardèche. Monique a été soignée à Lyon, à l'hôpital Neuro, et le professeur Honora m'a fait comprendre, à travers, entre les lignes, que ce serait bien si je voulais m'investir. J'ai été coopté à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et là, puisqu'Olivier vous parlait de fraternité, déjà je l'avais rencontré chez les professeurs à Lyon et tout le corps médical, bien évidemment, mais j'ai eu la chance de connaître une immense personne qui est le professeur Delattre, avec qui on s'est lié d'amitié et voilà quelqu'un qui fait partie des grandes personnes que j'ai pu connaître dans ma vie et qui m'ont apporté un vrai plus dans cette notion fraternelle. Et par rapport à des personnes avec un humanisme aussi grand que le leur, je ne pouvais pas faire autrement que de répondre par la positive à ce qu'ils me demandaient de faire. Et je mène cette action depuis maintenant 13 ans, en ayant mené à bien des événements forts sur Aubenas, mais pas qu'à Aubenas. Et c'est vrai que cette notion fraternelle, elle se situe pas que là, elle se situe dans tous les gens qui m'ont entouré pour mener à bien tout ce que je fais, parce que seul, on n'est rien. Et je trouvais important de parler de cette notion vraiment fraternelle. Elle s'est encore concrétisée pas plus tard que la semaine dernière au Vence, où toute une équipe était là. Ils se sont dévoués sans compter pour que tout réussisse.
Il nous faut clore.
Mais Olivier, vous avez raison de parler par contre de cette notion-là.
Voilà.
Elle est importante.
Et donc,
Rien ne se fait seul. Merci à tous mes amis.
Mais je voulais quand même signaler, avant que nous nous quittions, que le livre « Comme un vieux rock'n'roll » donc de Jean-Paul Édouard, sa vente, elle va, le prix va entièrement à cette association de recherche sur les tumeurs cérébrales. Et on se le procure comment?
Alors, je rebondis sur ce que dit Olivier. En fait, je laisse à chacun le soin de donner ce qu'il veut par rapport à mon essai. Je ne veux gêner personne. Et sachez que chaque centime récolté va à la recherche. Pour répondre à la question d'Olivier, vous pouvez me contacter. Les personnes qui habitent un peu loin d'Aubenas pourront recevoir gracieusement mon essai. Je laisse mon téléphone à votre papier et votre stylo. 06 73 60 71 73. Je vous le répète une fois, Jean-Paul Édouard, 06 73 60 71, 73. Je serai heureux de vous faire découvrir ce road trip un peu psychédélique et fantasmagorique. Merci Olivier.
Merci Jean-Paul de nous avoir rejoints pour L'Onde Curieuse et cette balade musicale dans les années 60 et 70. Je vais vous laisser, chers auditeurs, mais il me faut d'abord remercier Nicolas, Nico, qui réalise tout ça. Ciao, ciao.